France Inter.
Dans le cadre de cette journée spéciale consacrée à la bande dessinée, nous sommes en compagnie de la dessinatrice et auteure à l'œuvre multiprimée Florence Dupré-Latour, née à Buenos Aires où elle passe une partie de son enfance qui se déroule ensuite en Champagne puis en Guadeloupe. Elle suit le cursus consacré à l'édition à l'école d'art Émile Cole de Lyon, lieu où elle enseigne plus tard. Œuvrant autant dans le domaine de la fiction que celui du récit autobiographique, elle a notamment publié les albums Borgnole et Carnage, La sorcière du placard au balai adapté d'une nouvelle de Pierre Gripari et les séries d'albums dans lesquels elle se raconte sans complaisance, Cruelle, Pucelle et Jumelle. Notre invitée ne craint pas les tabous et creuse les sujets qui dérangent et qui font tout de même, rappelons-le, partie des choses les plus intéressantes. Freud opine du chef face à moi. Afin d'aller avec chaque partie de son nom de famille, Florence Dupré-Latour a une triple actualité. Chez Casterman, elle fait paraître Les Moribonds, fiction post-apocalyptique dans laquelle vous ferez la connaissance d'un ambivalent vampire mélancolique et esselé, tandis qu'elle publie chez Dargo l'ouvrage autobiographique Jeune et fauché sur son rapport à l'argent, ainsi qu'une nouvelle édition de Cruelle qui sera éprouvant pour tous les amoureux des animaux dont je fais partie. On en parlera. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter fait la BD. Eva Bester.
Bonsoir Florence Dupré-Latour.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Je suis tombée sur un catalogue d'exposition de Philippe Guston. J'ai pas eu l'occasion de le voir, de voir l'exposition qui se tient au musée Picasso. Et donc, je me suis rabattue sur le catalogue. Et ce catalogue retrace la vie de Guston tout en allant également interroger la question du grotesque chez Philippe Roth et Picasso. Et j'ai été fascinée par la trajectoire de cet artiste qui s'est remis en question trois fois dans sa vie de peintre et qui a été toujours engagé politiquement, et ça m'a posé des questions sur ma propre pratique, sur mon engagement politique et ma façon de m'intégrer plus peut-être à l'avenir dans ces questions-là.
Vous définissez comme proche de l'anarchisme, mais vous dites que vous n'êtes pas militante, enfin du moins artistiquement.
Oui, parce que alors c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas figé. Je me pose des questions là-dessus. J'ai écouté Édouard Louis en parler. Alors j'avais un peu la même idée que lui quant au militantisme quand il se rapproche de l'art et qui peut-être peut passer par l'affiche ou le slogan. Mais j'avoue que ce sont des formes que je n'ai pas du tout explorées. Et puis c'est une façon d'affirmer. Le militantisme, c'est un langage, alors que moi je suis plus habituée à un langage artistique qui a tendance plus, en tout cas dans ma manière de faire, à proposer et pas à imposer.
Ce qui est toujours mieux, enfin, là j'ose un jugement, mais c'est pas mon rôle, mais bon, je trouve quand même que c'est mieux de proposer que d'imposer. C'est amusant parce que votre premier vrai rapport à la bande dessinée s'est passé par la photographie. Votre mère était très bonne photographe, elle prenait votre famille en photo et vous regardiez les photos et vous imaginiez ce qui se passait dans les ellipses.
Oui, je me suis rendu compte de ça très tard. Je me suis demandé pourquoi j'étais fascinée autant par la bande dessinée. C'est qu'il y a un rapport à l'ellipse très fort dans la bande dessinée, comme dans les albums de famille, puisqu'on regarde des clichés qui sont des arrêts sur images sans avoir, bien sûr, l'histoire qui se passe entre ces images, qu'on reconstruit. Il y a toute une narration familiale qui se fait autour des albums photos et on a un peu le même mode de fonctionnement en bande dessinée, qui est un art elliptique par excellence, contrairement au cinéma, qui, quand il utilise l'ellipse, est souvent, va souvent vers l'humour, puisque c'est une forme caricaturale de rapport au réel, l'ellipse. On ne vit pas l'ellipse quand on vit notre vie d'humain, mis
hélas
à part quand on dort ou quand on est ivre. Donc voilà, j'ai été fascinée, je crois, et très marquée par les albums de photos de famille.
Alors, le festival d'Angoulême 2026 a été annulé. Au printemps dernier, il y a eu une pétition d'appel au boycott qui a été relayée et signée par les auteurs dans l'Humanité, qui avait rassemblé plus de 2500 signatures. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot de cela ?
Alors, ça faisait longtemps que les auteurs et les autrices râlaient contre des dysfonctionnements dans le cadre de la mainmise d'une société qui s'appelle 9e Art Plus et qui s'occupait de gérer le festival. arrive. Donc il y avait des problèmes d'opacité financière qui posaient question. Il y a eu des problèmes de sexisme, notamment avec des grands prix qui ne mettaient en avant que des hommes. Il y a eu des problèmes plus récents, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais des problématiques internes à cette société où une salariée a dénoncé un viol et s'est fait ensuite bizarrement remercier par elle s'est fait virer.
L'affaire
et
Chloé.
Donc voilà la fameuse affaire Chloé. Et bien sûr, les auteurs et les autrices avaient prévenu. Hein, ça fait longtemps qu'on est au charbon pour dire attention et prévenu de boycott. Et donc tout le monde était au courant, le maire était très au courant et personne n'a rien fait avec cette société qui a été reconduite pour 9 ans à travers un appel d'offres qui nous a paru à tous très très curieux et mystérieux. Et donc les auteurs et les autrices se sont emparés du boycott, ont réussi à faire annuler le festival même si ça n'était pas leur intention première, hein, puisque les auteurs et les autrices ont certains des histoires positives, d'autres négatives avec le Festival d'Angoulême. Mais moi-même, personnellement, je prends plaisir à aller au Festival d'Angoulême et je serais très heureuse de le voir reconduit dans des circonstances un peu plus positives et féministes, engagées. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, notamment fin janvier, autour de cette célébration, puisqu'il n'y a pas d'Angoulême. Il y a toute une organisation qui s'appelle le Girl Scout qui organise des manifestations dans toute la France. Qui ne seront pas forcément pérennes, hein, mais qui vont être très joyeuses et vivifiantes dans beaucoup de villes en France, et le programme sera bientôt annoncé.
Et donc Girl Scout, j'imagine que c'était évidemment ironique, puisque boycott était le nom d'un homme.
Oui, oui. Oui, oui. Alors, ça a été très, très critiqué par des imbéciles qui imaginent que les féministes ne savent pas faire la différence entre boycott et Girl Scout, alors que c'est un jeu de mots, et on a encore le droit de faire des jeux de mots.
J'espère.
Voilà.
Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite, même sur le long terme ? Parce que ça fait prendre conscience, justement, ce genre d'événement.
Oui, moi je suis très optimiste parce que là, il y a une prise de conscience qui a été brutale, certes, mais je pense que ça a été entendu.
Est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices qui vont souffrir de cette annulation, financièrement ?
Oui, toujours, des auteurs et des autrices qui avaient prévu des lancements. Des auteurs et des autrices qui étaient sélectionnés pour le Festival d'Angoulême, c'est en même temps très important et en même temps très vaniteux. Quand on est un auteur précaire et une autrice précaire, c'est une mise en avant qui compte. Et c'est Fabrice Snow qui c'est un auteur extraordinaire, Fabrice Snow, qui explique très bien un prix à Angoulême, on a beau dire qu'on s'en fiche des prix, c'est pas vrai. Ça compte financièrement dans les ventes et donc sur la vie des auteurs, le fait de pouvoir continuer à faire des albums, et bien ça passe aussi par ce genre de mise en avant.
France Inter, faites la BD. La 20e heure, Eva Bester.
Florence Dupré-Latour, on ne pourra pas éluder cette information. Vous avez une sœur jumelle. Vous en parlez dans Forever ma sœur, dans Cruelle, Pucelle et surtout dans le diptyque Jumelle. Elle s'appelle Bénédicte. C'est ou c'était votre âme sœur et ce fut, et j'espère que ce n'est plus, l'un de vos plus grands chagrins d'amour. Vous avez commencé par la fusion, puis le drame de la séparation vers 18 ans, je crois. Et la question est la suivante. Quand on a une sœur jumelle avec laquelle on fusionne, l'altérité est-elle toujours décevante ?
Elle est différente. Elle est oui, bien sûr qu'elle est. Elle est en même temps décevante et en même temps elle est attendue. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de fusionner avec un alter ego, trouver cette proximité démentielle et inatteignable avec les différentes histoires d'amour que j'ai pu vivre. Ça a toujours été très intense parce que j'essayais de retrouver cette proximité, on va dire magique et exceptionnelle que j'ai eue avec ma sœur jumelle.
C'est impossible ?
Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse.
Est-ce que le fait de faire le diptyque jumelle a été une sorte d'exorcisme ? Parce que ça coïncide aussi dans votre parcours avec un changement de technique. Vous êtes passé à des choses plus manuelles, revenu à des choses plus manuelles.
Alors, la question des pratiques, on va dire, plus manuelles, plus éloignées du travail à l'ordinateur, notamment, s'inscrit plus dans des angoisses qui sont liées à l'arrivée de l'IA, notamment. Et donc je me suis mise à la peinture à l'huile, je me suis mise à l'aquarelle, au fusain, par angoisse, pour avoir des pratiques moins attendues, moins recopiables, moins reproductibles. Et j'essaye d'avoir, d'un album à l'autre, beaucoup de changements de style, de manière à à me retrouver chaque fois là où on m'attend pas, et à être dans, une forme de, en même temps, de fuite et de création constante.
Vous arrivez à vous surprendre ?
Alors, c'est difficile à dire, parce que la bande dessinée, c'est de la reproduction des mêmes dessins, du même univers, d'une page à l'autre. Mais je me surprends plus dans le travail de la peinture à l'huile, que je pratique depuis 2 ans, avec plus ou moins de bonheur. Et je me questionne beaucoup. Je fais des portraits de ma famille. Donc, il y a un rapport très intime, très, très tendre. J'arrive à représenter uniquement les gens que j'aime. Les gens que je n'aime pas, je n'y arrive pas.
C'est vrai ?
Oui. J'avais encore une fois posé la question à Fabrice Naud, que je viens de citer, et qui représente beaucoup de personnes dans son travail autobiographique, des gens qui l'apprécient, des gens qui ne l'apprécient pas. Et moi, je n'arrive pas à représenter des gens que je n'apprécie pas. Je pense que j'irai vers la caricature, avec méchanceté.
Alors justement, en parlant de méchanceté, vous dites qu'à 18 ans, votre mère vous a autorisé à aller dans une école de dessin et qu'elle pensait que vous feriez des petites aquarelles gentilles. Et en fait, vous avez fait des petites aquarelles, mais méchantes.
Oui, cruelles.
Cruel, est-ce qu'on peut on en parle tout de suite ?
Oui, si vous voulez.
Cruel, c'est un album qui m'a traumatisée puisque vous torturez plein d'animaux.
Alors, j'en torture pas tant que ça, mais j'expérimente en tant que petite fille qui n'a pas encore à qui on n'a pas enseigné une morale ou une éthique, enfin une morale en tout cas concernant le rapport aux animaux, et qui se venge sur ce qui était plus petit. Ce sont des paroles de Stupéflip, et donc je décortique la hiérarchie dans le vivant, et en réalité c'est un plaidoyer contre la souffrance animale et contre la place des animaux qui se trouvent tout en bas dans la hiérarchie du vivant, dans notre imaginaire humain.
Vous décrivez, en tout cas, ce qui ressort de cet album, c'est que comme vous souffriez d'une sorte d'indifférence à votre égard de la part de votre père, vous vouliez avoir du pouvoir, et donc que pouviez-vous mieux dominer que des petits animaux ? Et dans votre enfance, que vous décrivez très 19e-iste, vous lisiez Prince Eric. Et j'aimerais que vous nous en disiez un mot, parce que moi, je ne connaissais pas Prince Eric.
Alors, le Prince Eric, c'est une figure qui a été notamment illustrée... comment s'appelle cet illustrateur
Alain d'Orange et Serge Dalens.
Alors, ce sont les auteurs, mais...
Alain Delance, il a illustré, je crois.
Oui, je vais retrouver le nom de l'illustrateur, qui était un illustrateur qui a beaucoup illustré le scoutisme et qui illustrait des figures juvéniles, masculines et féminines, surtout masculines, très, très troublantes. Ah oui, il s'appelle Pierre Joubert. Mais c'était très très beau, hein. Et donc ces histoires du prince Eric sont des histoires très très surannées, de perfection de l'adolescence, de dépassement de soi, mais toujours dans une morale parfaite.
Ça vous parlait parce que vous avez été élevé dans le catholicisme et dans une idée de pureté et de perfection.
Alors ça m'a parlé. Mais ce qui m'a beaucoup plus parlé, ce sont les malheurs de Sophie, où je voyais de la transgression, du trouble, des choses interdites que je m'interdisais, ou que je m'autorisais, mais sans le dire. Et donc j'étais beaucoup plus attirée par ces figures-là que finalement la reproduction fidèle et sage de figures de fiction.
François Froideval, lui, avait été créateur de la revue Cassius Belli. Et c'est en allant au Salon des Jeux de Réflexion, moi je voulais travailler comme illustrateur, qu'on me l'a présenté et qu'il m'a proposé de faire ma première BD. En fait, ni l'un ni l'autre n'avions jamais fait de BD. Pour nous, on a appris sur le tas, quoi. Bon, ça tombait bien, on avait un peu les mêmes envies, quoi. C'est-à-dire que on voulait faire une BD assez violente, assez hédoniste, assez amusante, quoi. En fait, on a eu la bonne surprise que le succès soit immédiat, quoi. Les libraires, les représentants voulaient pas entendre parler de cette BD, quoi. Ils disaient « non, ça va jamais marcher », etc. Vous avez vu comment c'est écrit, comment c'est dessiné. Tous ces braves gens n'avaient pas vu venir tout le mouvement de l'heroic fantasy, de Tolkien, du jeu de rôle, etc. Et moi, j'ai entendu 1000 fois « oh là là, l'heroic fantasy, ça marchera jamais en France », ou des choses comme ça. Enfin, bon, on a toujours des imbéciles comme ça qui ponctuent toute une carrière, quoi, qui viennent te raconter des blagues.
Florence Dupré-Latour, la première découverte de la bande dessinée s'est produite chez vous, je crois, à 14 ans, avec Chronique de la Lune Noire, de Froideval et Olivier Ledroit, qu'on entend le dernier donc, en 2025, sur le site de Steve et Rose Adelman. Et vous étiez en plus dans une période de jeux de rôle médiévaux fantastiques.
Alors, c'est pas mon premier rapport à la bande dessinée, mais disons que ça a été une de mes premières transgressions par rapport au patrimoine familial de bande dessinée. Donc, j'allais à la FNAC, j'avais pas d'argent, et donc j'allais lire debout à la FNAC des BD, comme beaucoup de jeunes qui avaient pas de thunes. Et donc, je tombe sur Chronique de la Lune Noire, et j'avais commencé les jeux de rôle en Guadeloupe avec un prof de maths qui nous faisait faire le mur et qui nous
rasait folle.
Oui, et qui nous reconduisait à 5h du mat sur sa moto à travers les mornes de Guadeloupe pour nous ramener, après avoir joué toute la nuit, pour nous ramener ma sœur jumelle et moi l'une après l'autre chez nos parents.
La suite est encore plus folle.
Et donc j'ai adoré cette bande dessinée qui était orgiaque graphiquement. Je ne sais plus ce qu'elle raconte, sincèrement, l'histoire, je ne m'en rappelle plus, mais les dessins étaient délirants.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre blog Siguiche ou le maître du jeu, J.E., un récit performatif multimédia qui a été ensuite publié en album?
Alors, c'est une période particulière de la bande dessinée, puisque c'est l'époque des blogs BD. Ça a été un outil formidable pour des auteurs et des autrices de s'emparer de l'autopublication sans passer par le fanzine. Et donc, il y a toute une génération d'auteurs et d'autrices qui sont passés par le blog. Et je me suis emparée aussi de cette forme, mais en racontant ma vie. Donc, c'est une démarche autobiographique avec un postulat qui était « je m'ennuie dans ma vie, alors, ma personnalité me déplaît ». Je la trouve fade, et donc je décide de jouer un des personnages de jeu de rôle favori, qui est un nain du Mordor nécromancien niveau 19, et je le joue, et c'est un personnage du mal, et je le joue dans ma vie familiale, familiale, personnelle et professionnelle.
Alors, c'est un personnage du mal. Dans quel sens il faut l'entendre, un personnage du mal?
Alors, ce sont des alignements qu'on trouve très régulièrement dans le cadre du jeu de rôle ou du jeu vidéo. Hein. Il faut choisir un alignement pour son personnage qui peut être chaotique, bon, mauvais. Et là, c'était dans le cadre d'une campagne de JRTM, donc les jeux de rôle des termes du milieu. Et je jouais donc un personnage du mal qui était censé faire le mal.
Quel est votre rapport à la religion aujourd'hui?
J'ai un rapport trouble. Je la rejette totalement dans ma vie de tous les jours, mais je sens toujours que je peux replonger à un moment ou à un autre. J'ai le souvenir d'un festival de polar dans lequel j'étais invitée et j'avais bu. Et le lendemain, j'étais très fatiguée, très fragile. Et il y avait une salle dans laquelle j'entendais des chants. En bas de l'hôtel, une salle qui avait été louée à une congrégation qui chantait très fort. Je ne sais pas s'ils étaient haïtiens ou congolais, mais voilà. Et je sors des toilettes, j'entends des chants qui sont un peu étouffés par une porte. Et quelqu'un ouvre la porte, les chants se mettent à jaillir des chants religieux de cette porte. Et j'ai failli replonger à ce moment-là.
Vous dites replonger comme...
Une drogue dure, oui.
Ouais.
Ouais.
Et la drogue... Ah bah là, je parle de la drogue, évidemment. Parce que vous en avez parlé dans une BD très brièvement. Donc
ouais.
Vous n'avez pas encore consacré d'album totalement à la drogue, mais ça a été une partie importante de votre vie.
Ouais.
Et vous droguiez encore quand vous étiez professeur à l'école Émile Cole.
Non, j'ai arrêté.
Ah bon?
Exactement à ce moment-là, ouais.
Ah, parce que j'avais calculé les dates et...
Non, j'ai arrêté exactement à ce moment-là, c'est le moment de ma séparation. Et donc, voilà, j'ai cessé... Alors, je dis pas que je reprendrai pas, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse plus.
Quel est votre rapport à l'addiction? Parce qu'on dit, souvent qu'une substance en particulier n'est qu'un symptôme.
Ouais.
Comme pour l'alcool.
Ouais. Moi, j'ai des passions. Donc, je pense que j'ai un rapport addictif à tout. À l'amour, quand je rencontre le grand amour, j'y vais tout de suite. Quand je rencontre un livre, j'y vais à fond. J'ai été passionnée pendant le Covid par les vases cloisonnés chinois et japonais du 19e. J'ai été absolument passionnée par les règlements de copropriété.
Ah non, c'est pas vrai.
Mais si, j'en ai lu plein. La langue juridique me fascinait. Donc voilà, j'ai un rapport addictif à mes passagers. Ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. On dit que l'amour dure 3 ans, je sais pas. Mais ouais, je peux pas m'empêcher d'être comme ça.
Est-ce que vous avez peur de vous faire mal ou vous prenez des risques sans hésitation?
Je suis devenue très peureuse. Ouais. Ouais, très
Comment
peureuse.
Ça se fait?
Je ne sais pas. Sans doute ai-je fait un travail sur moi-même qui m'a appris à faire plus attention à moi, alors qu'auparavant, je prenais tous les risques. Même j'allais chercher ces risques-là. Après, quand j'ai bu, je prends beaucoup plus de risques. Je vais toujours traîner avec des gens bizarres dehors. Je fais du stop pour rentrer chez moi, ivre, à 2h du matin. Je suis cette personne-là.
D'accord. Alors, en parlant de violence, parce que c'est une sorte de violence, vous dites qu'il y a une violence dans votre travail, dans le fait que vous ne le montriez pas à votre famille, parce que vous savez que si vous lui montriez, déjà, elle s'opposerait à la publication.
Bien sûr.
Est-ce que vous en éprouvez une culpabilité ?
Oui. Oui, oui, je suis dans des conflits de loyauté très puissants. J'ai pas envie de blesser, mais je blesse quand même. Je tisse des liens et je plante des couteaux dans le dos. J'ai vraiment ce rapport complexe et qui est vraiment inconfortable.
Si quelqu'un de votre famille vous disait par exemple « je t'en supplie, ça ne le raconte pas », qu'est-ce que vous feriez ?
Je ne sais pas encore, on me l'a jamais demandé.
Votre travail autobiographique, il est né des souvenirs envahissants qui vous hantaient. Est-ce que vous avez ressenti une différence ou un apaisement en les traitant, en leur donnant un espace physique ?
Alors, c'est pas un apaisement. L'apaisement, je l'ai plutôt trouvé dans un travail psy, mais c'est un changement de géographie. Dans mon architecture mentale. C'est-à-dire que j'étais très obsédée par mes souvenirs d'enfance qui revenaient comme dans une sorte de théâtre. C'était les acteurs principaux sur le devant de la scène qui prenaient toute la place. Ces souvenirs d'enfance, très forts, très puissants. Et je ne pouvais pas sortir du passé. Et le fait de les écrire, ça ne les a pas fait disparaître, mais ils sont passés à l'arrière-plan.
France Inter fête la BD. La 20e heure. Eva Bester.
Florence Dupré-Latour, on a déjà évoqué votre album Cruel, dont une nouvelle édition sort chez Dargaud le 9 janvier. La première était sortie en 2016. Et là, on entend Argent Trop Cher du groupe Téléphone pour introduire une prochaine sortie, 9 janvier, Jeune et Fauché, sur votre rapport à l'argent. Alors après la sexualité, l'argent, vous dites que c'était vraiment le thème le plus fort, en tout cas en termes de silence dans votre famille.
Oui, je pense que c'est un tabou social en France.
Ah bah surtout en France. Oui.
Surtout en France, on ne parle pas de ça. Est-ce que c'est un tabou chrétien, sans doute aussi. On déléguait l'argent aux Juifs pour ne pas avoir à toucher à l'argent quand on était noble, notamment. Et donc il y a une culture du silence autour de l'argent ou du mépris qui est très forte en France et dans les familles, pas que la mienne, mais dans les familles. Oui, je pense que il y a beaucoup de familles dans lesquelles il y a du silence autour de la transmission, de l'argent, du rapport à l'argent, du fait de gagner beaucoup ou trop peu. Et bien sûr, il y a un grand silence sur la honte sociale de ne pas avoir d'argent. C'est un silence qui est partagé par beaucoup de monde et que j'ai vécu.
Et une honte aussi autour de la sexualité, un silence aussi, notamment dans votre famille. Vous dites que vous vous intéressez à tout ce qui est tabou. Vous parliez déjà d'un rapport ambivalent à la pornographie dans Carnage. Il faut dire quand même pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre parcours que votre mère vous donnait des cours à la maison, donc vous avez été élevée en autarcie.
Oui. Nous étions une famille expatriée
en Argentine
et on est allé à l'école, hein, mais pendant quelques années, ma mère nous a fait l'école à la maison. C'était absolument extraordinaire. On avait des cours le matin et des ateliers créatifs l'après-midi. Donc c'était génial, vraiment, quelle chance d'avoir pu bénéficier de ça, et je remercie ma mère pour ça. Et par la suite, nous avons vécu dans une grande maison dans la campagne champenoise, et nous vivions également dans une forme d'autarcie. Moi, j'ai vécu finalement avec assez peu de monde autour de moi, et comme on déménageait souvent, on se repliait sur la famille. Et ensuite, en Guadeloupe, on vivait entre blancs, donc c'est aussi une forme de communautarisme.
Monsieur Pierre, la campagne est ouverte. Vous partez pour La Rochelle. Vous vous battrez avec votre bravoure légendaire. Les manquants à l'appel seront portés déserteurs et passibles de la peine de mort.
De Golas.
Présent.
De Harlis.
Présent.
De Fortin.
Comment ? Présent. Vous n'appelez pas par ordre alphabétique ? Ce n'est pas l'usage aux mousquetaires, Éminence.
Présent.
Athos.
Athos.
Présent.
Athos.
Présent.
Aramis.
Présent.
D'Artagnan.
Présent.
Empêchez ces appels. Prends ces quatre-là, ils sont, tout le monde y est. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. 10 jours d'arrêt à prendre à La Rochelle pour retarder l'appel.
Les Trois Mousquetaires, Les Ferrets de la Reine de Bernard Bordery, film de 61. Florence Dupré-Latour, enfant, vous étiez persuadée d'être noble et donc vous lisiez tout ce qui exaltait ce sentiment de noblesse, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, Le Prince Éric dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi les récits des déshérités, Oliver Twist, Princesse Sarah, Rémi sans famille, Le Capitaine Fracasse, et vous détestiez Picsou.
Alors oui, j'étais vraiment portée par des récits de pauvres qui me fascinaient, qui me troublaient. J'avais le plaisir de me sentir au-dessus de cette situation-là. Et je me réconfortais à l'idée de ces récits-là. J'étais petite fille, hein, donc ce sont des récits d'enfance pauvre. Et c'est assez trouble. Je vais pas dire que j'avais l'intuition que j'allais devenir pauvre, mais j'avais une peur démesurée de cette situation-là.
Alors, ce qui est frappant, c'est que vous décrivez une enfance plutôt heureuse. La première question concernant l'argent, vous l'êtes posée à 17 ans et vous n'avez jamais demandé d'argent à vos parents, enfin plus jamais à partir de deux événements que je ne dévoile pas ici. Et la chose la plus frappante de votre album, c'est que la valeur que l'on s'accorde ou que l'on vous accordait est liée à l'argent. C'est-à-dire que vos parents vous ont littéralement fait payer, vous manquiez de valeur, vous manquiez d'argent et on dirait que les sentiments et l'argent sont vraiment liés.
On dit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est totalement faux. L'argent est très marqué symboliquement par l'amour ou le désamour. Si on donne de l'argent, on soutient son enfant, on soutient un ami, quelqu'un de la famille ou même pour une cause qui nous tient à cœur, c'est pas neutre l'argent. Et moi je l'ai vécu de cette manière-là, mes parents ne me soutenant pas et me laissant dans des situations complexes financières, j'avais l'impression de ne valoir rien à leurs yeux et de ne plus avoir de valeur à mes propres yeux.
Et vous avez eu deux enfants et dont un accouchement catastrophique qui vous a laissé handicapé par des entailles. 8 mois plus tard, vous étiez à nouveau enceinte et vous dites que l'avortement était impossible de par votre éducation. Vous avez même, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi la réflexion sur la classe sociale qui charrie votre œuvre, vous avez aussi noté les différences de traitement dans les hôpitaux selon la classe sociale.
Oui, j'ai accouché chez les pauvres dans le 9-3, dans une clinique qui s'appelait la Duis, elle n'existe plus. Et je suis allée me renseigner sur Internet il n'y a pas si longtemps que ça, sur des forums qui datent de 2004-2005, qui existent toujours, et qui font état de ce que j'ai pu vivre. Catastrophique, personnel atroce, conditions même sanitaires vraiment déplorables. Donc je n'ai pas imaginé ce que j'ai vécu. Et j'ai ensuite accouché à la Croix-Rousse. Et donc j'ai eu plus de valeur, j'étais mieux traitée. Alors que dans cette clinique où il n'y avait que des étrangers, des migrants, des gens pauvres, eh bien j'ai été très maltraitée.
Alors en parlant de maltraitance, plus vos parents vous abandonnaient, plus vous les mettiez sur un piédestal et oui. Vous vous attachiez à eux. Où en êtes-vous de cela ?
Alors j'ai fait un long chemin depuis. Je suis toujours attachée à mes parents. Mais je n'ai plus cristallisé leur image dans un rapport faux et fantasmé à mes parents. Et j'étais... alors j'ai lu des choses sur ce mécanisme de... Mise en lumière, quand on met vraiment des gens sur des piédestals, eh bien, il y a des rapports à la violence en fait qui sont sous-jacentes à ce mécanisme-là.
Je crois aussi que vous aviez très peur de ressembler à votre mère.
J'ai toujours.
Vous avez toujours.
Je pense que c'est quelque chose qui travaille tout le monde. On n'a pas forcément envie de ressembler à ses parents.
Vous avez vécu dans un sac de couchage.
Oui, j'ai vécu dans un sac de couchage parce que j'avais pas assez d'argent pour payer le chauffage. Et donc j'avais des fenêtres qui fermaient pas bien. Il faisait très froid et j'ai eu mon sac de couchage rouge pendant plusieurs années.
Est-ce que votre mère a vécu dans un sac de couchage ?
Alors elle aimait beaucoup le camping, mais je ne crois pas.
Bon, alors ça va. Un jour, quand votre père a eu une double vie et qu'il a voulu vendre la maison familiale, vous avez explosé de colère. Et oui. Ça a coïncidé aussi avec un sentiment de libération.
Oui, moi j'ai été dans le silence, dans le non-dit, dans l'acceptation, le fait de faire le dos rond et de ne pas remettre en cause une hiérarchie dans la famille. Et un jour, tout est sorti d'un coup. Ça a été très intense, très violent pour tout le monde. Et j'ai été en colère pendant plusieurs années. C'était très fatigant, je le déconseille.
Est-ce qu'on peut le contrôler ?
Non, on n'a aucune prise là-dessus. Aucune. Mais c'était absolument nécessaire pour moi. Après, je pense que j'ai été habituée à cette colère, j'ai joui de cette colère, elle est devenue une compagne. Et c'est un travail psy qui m'a permis de me libérer de cet état qui finalement n'est pas, qui peut être formidable hein, dans les luttes sociales notamment. La colère, c'est
moteur.
Ça n'est pas, c'est un moteur, mais rester dans une colère, on va dire stérile, ça ne servait à rien.
Vous avez manqué d'argent pendant de nombreuses années et il semble que vous ayez beaucoup travaillé sur vous. Et je voulais savoir quel était votre rapport à l'argent aujourd'hui et comment vous éduquiez vos enfants sur le sujet.
Alors j'ai un rapport à l'argent qui reste, alors je ne sais pas s'il est sain, hein, mais comme j'en manque moins, je n'ai plus du tout ces angoisses d'argent qui sont incapacitantes, qui empêchent d'agir. Et donc je suis beaucoup plus dans l'action. Mais ça j'ai toujours pu le faire, même quand j'avais pas d'argent, donner de l'argent à des gens qui en ont besoin. Je suis pas dans une forme de rétention. En revanche, j'ai besoin de me sentir rassurée. Donc j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de côté, une assurance, de manière à pas me sentir aux abois. Et concernant mes proches, notamment mes enfants, je suis peut-être un peu trop protectrice, mais je les ai assurés de ma présence, notamment financière auprès d'eux, quoi qu'il arrive.
Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Surtout un qui me sort des excuses en bois pour ne pas lâcher le blé qu'il me doit tous les débuts de mois. Je ne sais pas ce qui me retient de la mocher. Les jours où je suis fauché, lui décocher un crochet. Le premier pour atténuer sa haine qui mijote en lui quand il bloque sur mes chaînes. Ça ne manque pas à chaque fois car selon lui, si je suis ici, je suis forcément un clochard. Un qui me parle mal et qui m'envoie chier 5 fois à la maison chercher des papiers pour me scier. Qui me sort des erreurs plus que louches pour ne pas que je touche comme si je lui enlevais de peine sa bouche. Fils, si tu ne veux pas m'énerver, raque-moi les fonds pour les 3 ans où j'ai cotisé. Cette spécimen n'est pas unique et malheureusement depuis, une seule idée magique, je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui peut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un type des acédiques, je rêve d'éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Je travaille 12 à 18 heures par jour. Un certain aléatoire est mon parcours. Mais quand il sonne à 9 heures chez moi, là c'est trop. Puis je me dis que lui aussi fait son boulot. 2 heures après, je descends pour chercher mon courrier. Là commence le premier courroux de la journée. J'habite au premier, est-ce trop fatigant? Je trouve un avis de passage motif. Absent, mon colis est parti plus vite qu'avec poste. Et moi comme un pigeon, je fais 1 heure de queue à la poste. Pense désormais quand tu appuies sur ma sonnerie que tu peux morfler pour ce genre de conneries. Plus tard, je prends le bus, plus ou moins à l'heure. Essaie de me calmer après le regard du chauffeur. Un vieux maghrébin fait un signe pour monter. C'est à ne battre, s'arrête 15 mètres après l'arrêt. J'ai eu mal au cœur, pas mal de haine aussi. Le vieillard est monté et lui a même dit merci. L'arrêt d'après, les contrôleurs ont investi le bus en civil travesti. Sans dire bonjour devant moi comme un piquet d'une voix sèche, il m'a dit le ticket. Les hommes d'un langage afin de communiquer. Et pour la politesse, ils ont créé, s'il vous plaît. Tu voudras bien le dire quand tu vois ma face, ok. Sinon, ticket peut donner un taquet. Je déteste tous ceux qui se prennent pour des flics. Je ne suis pas méchant, mais le respect se mérite. Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui. Éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un type des acédiques. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon foot. Je rêve d'éclater un type des acédiques.
J'étais sens du bus, juste en face de moi, le bâtiment farci de gus et plein d'astuces. Faire des embûches, je sais pertinemment qu'économiser est une consigne du ministère. Il y a 4 ans, ils m'ont laissé sans un franc, quand leur patrimoine personnel est un mystère. Le haut de l'État me ramène à la raison, les plus grands voleurs ne sont toujours pas en prison. Écoutez ces mots, un sourire, non, ce serait trop beau. Ils sont réglés et nous parlent comme à des robots. J'en ai assez de faire les frais de l'humeur de ces gens, je le sens, je vais casser des dents. Que les exceptions dans ces professions m'excusent, mais c'était un devoir de parler de ceux qui abusent. Il fut un temps, j'étais diplomate et passif, je suis agressif avec les écorchés vifs. Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques. Un bien con borné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques, un type des acédiques. Je rêve d'éclater un type des acédiques, un bien con borné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques, éclater 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 un type des acédiques.
You win. Perfect.
On entend votre choix musical, Florence Dupré-Latour, c'est Éclater un type des acédiques d'Akhenaton.
Oui, alors au départ j'étais partie sur Salaud de droite de Stupéflip, mais je le trouvais plus sur YouTube. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il y a une chasse aux pauvres, que je trouve révoltante. L'accès au RSA est conditionné, vraiment c'est très compliqué d'avoir le RSA maintenant. Les droits au chômage sont rabotés, ne parlons pas de la réforme des retraites, mais il y a des coupes dans les droits sociaux qui me révoltent et qui viennent de la droite et de l'extrême droite. Et donc, pour moi, Éclater un type des acédiques, c'est un super, super morceau d'Akhenaton qui a 20 ans, 25 ans maintenant. Je sais plus, c'est les années 90.
30 ans.
Ouais, 30 ans presque. Et que je trouve très moderne. Les acédiques, c'est l'équivalent de France Travail.
Mais vous pensez pas que les gens qui y travaillent eux-mêmes n'ont pas de salaire mirobolant?
Ah non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, Akhenaton, dans son morceau, s'excuse auprès de ces gens qui travaillent et qui sont pas forcément responsables de cette situation.
Eh ben, j'ai prévu pour vous une autre chanson délicieuse concernant l'argent.
Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pence, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. T'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous. Le bingo, c'est nous. Le tiercé, le quarté, le quinté, c'est encore nous. Le quinté plus, on te ressuce. Faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent tout. T'as pensé à payer ta
rap tout des inconnus que j'ai voulu passer parce que ce sont des vampires et ça parle d'argent. Et là, ça me permet une transition absolument parfaite vers la bande dessinée qui sort aujourd'hui, Les Moribonds, et qui met en scène notamment Gabriel, un vampire mélancolique esselé. Et je crois qu'en parlant de vampires, vous aviez commencé par proposer vos services à Johan Sfar sur Petit Vampire.
Alors c'est lui qui m'a appelé.
Ah.
Et en effet, j'ai travaillé sur l'adaptation en dessin animé de Petit Vampire, la première version, il y a maintenant fort longtemps.
Et alors, il a publié votre première bande dessinée, je
Tout
crois,
à fait.
Capucin, fils du chevalier Gauvin, qui voit sa noble famille ruinée. Donc on parle à nouveau d'argent, ça charrie les autres albums. Et revenons à ce vampire, Gabriel, c'est le nom d'un ange.
Tout à fait, c'est le nom d'un ange. C'est le nom d'un ange et j'ai écrit cette fiction, je reviens à la fiction avec grand plaisir et grand bonheur, parce que depuis 2 ans, je lis des choses sur la lutte des classes, notamment le magazine en ligne qui s'appelle Frustration de Nicolas Framont, et donc infusait en moi des idées que je trouvais assez pas très sexy. C'est-à-dire que la lutte des classes, dans les années 90, les années 2000, elle était prise à bras-le-corps par le polar. Mais dans la littérature, le cinéma, c'était pas forcément très désirable. Et donc, j'ai voulu reprendre cette thématique-là à travers un récit de genre. Et je me suis appuyée sur la vision de Marx du vampire.
D'ailleurs, vous lui donnez une faucille et un marteau.
Je lui donne une faucille, voilà, une faucille et un marteau. Donc, la vision de Marx, c'est le vampire qui suce le sang des prolétaires. Et je me suis beaucoup amusée à représenter un vampire qui est un bourgeois, qui est quelqu'un qui profite de sa situation.
Qui regrette le monde d'avant.
Qui regrette le monde d'avant, puisque le monde est dévasté par une épidémie de morts-vivants. Et ce pauvre vampire va vivre une chute de classe sociale brutale et va devoir se mettre au travail. Et il déteste le travail. Et je ne peux que le comprendre.
Comme vous, dans les albums autobiographiques.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il déteste le travail, il doit protéger un groupe d'humains qui est son cheptel, auquel il va quand même peu à peu s'attacher, parce qu'il est quand même très seul.
Oui.
Et donc, les humains profitent aussi de lui, ils lui donnent un peu de sang, il ne meurt pas pour autant, il trouve ça d'ailleurs assez agréable de se faire mordre. Et il les maintient en vie et les protège contre les moribonds, les morts vivants qui sont partout et qui ne pensent qu'à une chose, c'est de tuer les humains qui restent. Ce qui est amusant, c'est que dès qu'il commence à bien les traiter, les humains ne font plus rien et font en sorte que Gabriel travaille pour eux.
Oui, donc plus le vampire travaille, donc plus le vampire va se mettre au service de ces humains qui au début sont terrifiés et petit à petit se rendent compte que finalement ils ont du pouvoir.
Il l'appelle frérot quand même.
Et petit à petit, tout à fait.
Mauvais signe.
Ils vont moins bien le traiter sur le plan du verbe. Au début, ils sont vraiment très pleins de révérence.
Il l'appelle
monseigneur, maître. Ils sont extrêmement soumis. Et petit à petit, quand le vampire va se mettre au travail, eh bien, il y aura de moins en moins de respect pour ce vampire.
Est-ce que vous pouvez nous dire, sans en dévoiler trop, un petit mot sur, pour moi, le personnage le plus terrifiant de l'album, qui est la mère, entre guillemets, de Gabriel, parce qu'on ne comprend pas très bien le rapport qu'elle entretient avec lui, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'il y a quelque chose d'assez soit incestueux, soit incestuel.
C'est très incestuel, c'est sa génitrice en langage vampire, c'est-à-dire que c'est elle qui l'a transformé en vampire, mais ils ont des rapports très louches. Et pour moi, c'est la figure du totalitarisme. Ce vampire arrive à former une sorte de d'utopie qui tourne finalement à son désavantage, puisque les humains de cette utopie vont essayer de profiter de leur situation pour avoir du pouvoir sur le vampire. Donc, pour moi, l'utopie est toujours, souvent, amenée à dégénérer. Et on a la figure du totalitarisme avec cette mère vampire qui est terrifiante.
Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis « Maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison, que je m'amuse avec vous. Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête. » Et en disant ces mots, j'attrape le gros cendrier de verre. Cette fois, le type ne rit plus. « Eh là, doucement, calmez-vous, cher monsieur. Posez ça là, asseyez-vous. Parlez d'abord. »« Mais oui, je vais parler. Après tout, maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée. » « Hantée ? Hantée par qui ? Par la sorcière du placard au palais. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt ? Eh non, si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter la maison et moi je voulais la vendre. Finissez de rire ou je vous casse la tête. C'est bon, c'est bon. Mais dites-moi donc, j'y pense. Je l'ai visité, ce placard au balai, il y a un quart d'heure à peine. Je n'y ai pas vu de sorcière. C'est qu'elle n'y est pas dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit ? Oh, elle se tient tranquille, elle ne fait pas de bruit, elle reste là, bien sage, dans son placard. « Seulement attention, si vous avez le malheur de chanter « Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière !» À ce moment-là, elle sort et c'est tant pis pour vous. »
On entend le livre audio de La sorcière du placard au balai par Pierre Gripari et c'est lui qui lit sa propre histoire. Florence Dupré-Latour, vous avez fait une bande dessinée adaptée de cette histoire. Vous semblez aimer l'univers fantastique, on vient de parler des moribonds. Et alors, j'aime bien qu'on découvre une chose en fin d'émission. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot d'une bande dessinée qui vous a énormément marqué et qui s'appelle « Contes démoniaques » d'Aristophane ?
Ah oui, je crois qu'elle n'est plus disponible. Donc c'est une rareté qui a été publiée à l'association et qui nous montre les enfers et tous les démons qui l'habitent. C'est d'une beauté plastique stupéfiante. Et j'ai rarement vu une bande dessinée aussi, j'ai rarement lu une bande dessinée aussi marquante.
Merci beaucoup Florence Dupré-Latour. Les Moribonds est sorti aujourd'hui chez Casterman et après-demain sera publié chez Dargaud l'album Jeune et Fauché ainsi qu'une nouvelle édition de l'ouvrage autobiographique Cruel à signaler aussi. Vous serez ce vendredi à la librairie Le Monte en l'air à Paris pour une signature de lancement. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Julien Dumont.